Pérou, le gouvernement de la honte. Le Pérou a fait souvent parler de lui ces derniers mois. Si c'est un des seuls pays d'Amérique du Sud à afficher une progression économique constante, 1,5% en mai dernier, il s'est regrettablement fait remarquer dernièrement pour l'assassinat d'indigènes en Amazonie par un gouvernement qui souhaitait faire voter une loi permettant aux multinationales d'exploiter les réserves naturelles sises en territoire amérindien. Il s'agissait en fait de légaliser tout un système de corruption, partagé entre les entreprises étrangères, le gouvernement central et quelques autorités locales entremetteuses chargées de soumettre les indigènes. Cette fois, l'appât du gain a conduit le gouvernement à dépasser les limites. Les Amérindiens ont refusé de se laisser légalement exproprier et ont manifesté pour que leurs droits ancestraux soient préservés. Tirez, ne pensez pas, fut l'ordre donné aux policiers et militaires par le président. Alors, la police a tiré dans le tas, et l'escalade de la violence aurait pu se solder par une hécatombe si la presse internationale ne s'en était mêlée. Christina Castello, journaliste, Humeur de Jean Dornac, 2 juin 2008. Il faut dire que ce gouvernement baigne dans une corruption fétide depuis l'élection surprenante du président Alan Garcia en 2006. On ne compte plus le nombre de gouvernements qui se sont succédés, contraints de démissionner les uns après les autres pour corruption. Élection surprenante, car pendant son premier mandat, 1985-1990, Alan Garcia n'avait pas brillé par la vertu, bien au contraire. Il avait abandonné le pays aux terroristes, Sentier Lumineux et MRTA, et avait été incapable de gérer l'inflation, 2700% en 1986, établissant un record mondial jamais égalé à ce jour. Dès la fin de son mandat en 1990, il s'empressait de quitter le Pérou pour s'installer confortablement dans un appartement de 196 mètres carrés à Paris 16e, 118 rue de la Faisanderie, payé près de 2 500 000 euros. Pour éviter des tracas avec la justice péruvienne qui le poursuivait pour corruption et assassinat. Les délais de prescription passés, il rentrait au Pérou pour se présenter aux élections présidentielles de 2005. Muni d'un talent verbal qui électrise les foules, associé à des élucubrations de danse moderne ridicules que son metteur en scène lui a conseillé pour conquérir les électeurs, grâce aux magouilles ayant écarté l'ex-président Alberto Fujimori de la compétition et favorisé par l'excellente organisation de son parti politique, l'APRA. Il remporta les élections. Rajoutons qu'il a aussi été aidé du peu de mémoire de ses concitoyens. Cela fait partie des risques et défis du jeu démocratique. Curieux régime qui sacre les clowns et consorts et n'obtient naturellement qu'une parodie de gouvernement. Résurgence déformée et actualisée de l'antique maxime romaine, du pain et des jeux, mais surtout des jeux. Sa vie privée est aussi agitée que celle de l'acteur candidat présidentiel. Membre des commandos civils à l'université, il se fait déjà remarquer par sa férocité dans les bagarres contre les non-gauchistes. Pendant son premier mandat, 1985-1990, ses excentricités n'ont pas de bornes. Il sortait la nuit vêtu de noir sur son scooter à la recherche de la fille d'un puissant entrepreneur arabe. Dans la journée, il disparaissait soudainement du programme que le protocole avait prévu et on le retrouvait plus tard, la guitare en bandoulière, chez des copains, après avoir provoqué l'affolement de tous les services de sécurité. Son directeur général du protocole, l'ambassadeur Claudio Sosa, démissionnera très vite de sa charge, épuisé de servir un fantoche. Sa violence est permanente. Il a donné un jour un coup de pied furieux à un handicapé qui obstruait son passage devant la télé. Ce qui lui valut le sobriquet de patadita, petit coup de pied. Durant ce gouvernement s'est organisé le commando Rodrigo Franco, qui a balayé des populations andines entières, les meurtres de paysans étant habituels et de même les disparus. Homme de droite en 88. Il est cependant ébloui par le groupe de guerreros Sendero Luminosa, Sentier Lumineux. Je ressens de l'admiration pour la mystique et l'ardeur de ses militants, dit-il alors. Il avait aussi ordonné le massacre d'Acomarca, où l'armée péruvienne a assassiné 45 personnes. Le deuxième mandat de M. Garcia est assez semblable au premier. L'ordre donné à la police de tirer sur la foule rappelle le massacre de la prison El Fronton à Lima en 1985. Ordre qui venait directement du président. Au total, plus de 200 prisonniers du Fronton, de l'Urigancho et Santa Barbara sont extrajudiciairement exécutés. Cette tuerie fut ordonnée lorsque les rebelles s'étaient rendus, et en dépit du fait que la majorité était inculpée, non accusée. Dans les jugements post-mortem, plusieurs ont été déclarés innocents, fait prouvé par la justice péruvienne et la Cour internationale des droits de l'homme, humeur de Jean Dornac, 17 juin 2009. Le terrorisme, pratiquement éradiqué par l'ex-président Fujimori, 1990-2000, est aujourd'hui en pleine croissance, comme au bon vieux temps de son premier mandat, mais augmenté d'un effectif important des FARC, chassés de Colombie, qui importent au Pérou argent, matériel de combat sophistiqué et un savoir-faire de 50 ans d'expérience de guerre subversive. Avec la complaisance passive d'Alan Garcia, la justice péruvienne s'est déshonorée en condamnant sans preuve, munie seulement d'intimes convictions, l'ex-président Fujimori pour ses prétendues responsabilités dans les massacres de la Cantuta et autres accusations absurdes extraites de cette guerre qu'a livrée le Pérou contre le terrorisme entre 1980 et 2000. Il est vrai que M. Fujimori est en difficulté pour justifier le paiement des études onéreuses de ses enfants à l'étranger et divers éléments constitutifs de son train de vie. Qu'il réponde ici devant la justice est naturel. S'il était condamné ici pour corruption et que la preuve en soit établie, cela ne retirerait en rien l'excellence de ses deux mandats successifs, durant lesquels il a pratiquement décimé le terrorisme, rétabli la paix nationale, permis aux autorités d'assumer leurs fonctions dans tout le territoire, élevé l'économie à un niveau exceptionnel, le mettant en compétition à égalité avec les pays riches, multiplié les emplois, dynamisé l'agriculture et l'industrie, encouragé les investissements, amélioré les protections sociales, en un mot, fait du Pérou une puissance sur laquelle on devait compter. Fujimori, appuyé par l'ensemble de la population, et particulièrement par les paysans, auxquels il avait sensiblement amélioré les conditions de vie, est aujourd'hui honteusement abandonné au fond de sa prison, conséquence d'une justice pourrie aux ordres d'un pouvoir corrompu. L'avenir de Fujimori s'assombrit, car il est en prise avec les divisions dues aux soifs de pouvoir de son propre entourage. Le député Carlos Raffo, principal leader du parti officiel Sicumple, considéré comme le dauphin, est le plus ambitieux et le plus incapable de tous. Il cumule les gaffes. C'est aussi le plus dangereux, car on peut se demander si sa façon d'agir n'a pas pour but d'écarter Fujimori, qu'il utiliserait alors comme un tremplin pour ses ambitions personnelles. Tous les élus du parti se battent aussi pour tenter de récupérer l'héritage populaire de l'ex-leader. Il existe aujourd'hui une cassure qui ne cesse de s'accentuer entre le parti et le peuple, qui n'est plus ni consulté ni informé, car la hiérarchie organique qui le liait aux dirigeants n'existe plus. Face à ces désordres, un nouveau parti, Bien Peruano, vient de se créer et semble prometteur. Il souhaite réunir les fujimoristes écœurés par le combat des chefs et réactiver le modèle politique de Fujimori. Son succès sera garanti si les contacts sont repris avec la base. L'un de ses fondateurs, le général Eduardo Fournier, est un de ceux qui a fait prisonnier le plus de pointures terroristes. C'est lui aussi qui, au péril de sa vie, avait dénoncé au président Fujimori les manœuvres de Vladimir Montesino, chef des services d'intelligence, qui préparait un coup d'État et son assassinat, lui conseillant de quitter immédiatement le pays pour se réfugier au Japon. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon, mais derrière, bien des nuages. Georges Eric Wolf, Lima, le 24 juillet 2009.